Donc la majesté, majesta, hein, est un terme omniprésent dans le lexique politique espagnol de l'époque moderne. Je vais faire quelques brefs rappels, hein. C'est un terme qui est dérivé du latin maior, plus grand. Et la majesté est le prédicat par lequel on s'adresse au souverain et qui rend compte de la supériorité attribuée à sa personne publique. Toutefois, cette notion est faiblement conceptualisée et lorsqu'on cherche à en scruter les usages, on constate que les contemporains l'évoquent d'abord en creux, c'est-à-dire à travers ses effets supposés. Un célèbre passage de la Repubblica Literaria de Saavedra Fajardo rend par exemple hommage à Velázquez en décrivant ce que produit chez le spectateur la contemplation d'un portrait de Philippe IV et il rapporte ainsi que l'expression auguste et majestueuse du roi fait, je cite, ployer le genou et baisser les yeux. La définition qu'en donne Juste Lips est probablement une des plus complètes. Et je la prends parce qu'elle est représentative et puis qu'en même temps elle peut nous servir de fil d'Ariane. Donc il y voit, alors je vous le dis en français, mais vous pouvez le lire donc en espagnol, puisque c'est la traduction espagnole de 1604, hein, de Politica. Une certaine grandeur vénérable due à la vertu ou à des choses qui lui sont imputées. Chez le particulier, nous l'appelons autorité, chez le prince, majesté. C'est une arme redoutable pour s'imposer, car en temps de paix, l'autorité est nécessaire pour donner du crédit et de la réputation aux choses, et en temps de guerre, elle est capitale pour le gouvernement militaire. La présence cumulée d'un certain nombre de facteurs extérieurs compte aussi beaucoup. Et donc Lips distingue les éléments extérieurs naturels, fort classiquement, hein, les bonnes proportions, la prestance, les éléments extérieurs artificiosos, comme il dit, hein, c'est-à-dire se mettre à distance, car, dit-il, la majesté est davantage révérée de loin. En somme, hein, si je résume, la majesté serait donc imputable à la détention de qualités morales et physiques, ainsi que d'une attitude acquise, et elle produirait respect, vénération et obéissance. Alors, ce développement donc appelle évidemment quelques remarques. On voit déjà que l'effort d'objectivation de Lips ne se départit pas d'un certain flou. Hein, il évoque une certaine grandeur, proprement royale, qui serait une forme d'autorité. Quant au vocable « autorité », il désigne une réalité avant tout perçue et construite, car imputée à l'existence postulée de vertu, et où intervient un ensemble indéfini de paramètres intérieurs mais aussi extérieurs. Par ailleurs, hein, le néo-stoïcien insiste sur les effets produits, donc crédit, réputation, pour en faire, je cite, donc une arme pour s'imposer, c'est-à-dire aussi un outil de gouvernement. Et de fait, hein, en ce qu'elle singularise et élève le détenteur suprême du pouvoir, la majesté a partie liée avec l'histoire de la souveraineté et du renforcement des pouvoirs monarchiques. La majesté apparaît ainsi d'abord comme un phénomène relationnel, propre à un pouvoir extériorisé qui se manifeste en gloire et qui se constitue d'abord par le fait même de se mettre en scène. Et c'est ce qui différencie la majesté de la souveraineté, de la royauté. Ce sont des notions évidemment connexes, mais la majesté, elle se différencie par le fait justement qu'il s'agit de se mettre en scène et par cette dimension relationnelle. Alors on peut bien sûr chercher des origines à cette grandeur, hein, comme le discours de l'excellence dynastique transmise par le sang, qui se met progressivement en place et qui s'entrelace avec le discours religieux de la catholicité militante, dont une des formes sera donc sous Charles II, l'exaltation de la Pietas Austriaca, autour de l'adoration de l'Eucharistie, de la défense de l'Immaculée Conception et de la sacralisation de la dynastie, à travers une politique de canonisation qui fait rejaillir sur les Habsbourg les attributs de la sainteté. Je pense notamment à la canonisation de Fernando. La majesté devient dans ce discours une faculté héréditaire qui incline le roi à vouloir toujours le bien, qui en fait le seul à pouvoir réaliser l'adéquation du corps politique au corps mystique par une politique chrétienne. Et le roi doit alors se rendre digne d'une mémoire dynastique immortelle afin d'en incarner la majesté. Et dans l'exercice de cette majesté, que concrétise des actions justes, il est unique et intouchable. Mais on le voit, même dans le discours qui tente d'essentialiser la majesté pour la rendre inquestionnable, eh bien, la majesté demeure une faculté qui doit perpétuellement s'actualiser. Et en ceci, elle renvoie donc à un processus qui est mal circonscrit, que l'on pourrait qualifier de mystère politique et qui suppose une performance devant un public. Et donc on en revient à cette dimension relationnelle qui fait que la majesté se manifeste, se montre et s'éprouve au sens fort plus qu'elle ne se démontre. Donc voici les points que je vais successivement aborder dans ma communication. Donc dysfonctionnement des dispositifs de croyance et explicitation de la majesté en tant de minorité. Le règne de Charles II offre un bon terrain pour aborder ce problème de la majesté, me semble-t-il, qui touche donc au fondement du régime monarchique et à la réalité de la répartition des pouvoirs. La minorité en particulier est une période matricielle et elle met en tension plusieurs phénomènes liés à la majesté. Donc la souveraineté, l'obéissance, la réputation du prince et la publicisation du corps politique selon des modalités inédites, dont une partie sont ce que j'ai appelé donc des guerres de plumes, qui permettent de montrer le double fond du théâtre du pouvoir. Alors plusieurs raisons rendent compte du fait que ce soit vraiment un laboratoire politique où justement la notion de majesté est mise à l'épreuve. Les dysfonctionnements et la liberté de jeu qu'entraînent structurellement toute régence, a fortiori en l'absence d'une tradition politique de minorité et d'un texte normatif régulant la répartition des pouvoirs de façon univoque, en font donc, je l'ai dit, un laboratoire politique. C'est ainsi que, rompu au code courtisan, et sachant jouer du cérémonial et de la grâce pour placer des hommes de confiance souvent étrangers au sérail, la reine, la régence, Mariana d'Austria, déstabilise les équilibres politiques en vigueur et irrite les corporatismes. Son choix de s'appuyer deux fois et de façon ostensible sur des ministres privilégiés, un Itar puis Valenzuela, permettait aux mécontents que le bâtard royal Juan José d'Austria finit par fédérer par deux fois, permet donc de nourrir un argumentaire qui est ouvert à la généralisation. Et par ailleurs, la bipartition entre l'exercice du gouvernement aux mains de Mariana et la détention de la souveraineté par Charles II, qui incarne la majesté, est exacerbée par des remaniements de l'étiquette courtisane due à la centralité inédite de la maison de la reine dans la gestion de l'espace curial. Je passe très vite, mais les conflits de préséance, notamment entre la Haya et la Camarera Mayor de la reine, donc une entité qui vraiment représente liée à Charles II et l'autre plus à la reine, signalent les flottements dus à cette situation et peuvent être lus par une fraction intéressée des courtisans comme une atteinte à la dignité du roi et en tout cas manifestent une sorte de déboîtement du corps monarchique dans l'espace domestique du palais. Mariana n'a que l'usufruit du pouvoir qu'elle exerce au nom de son fils, ce qui n'est pas régné, et les grippages qui en résultent dans le cérémonial et les pratiques de gouvernement peuvent enrayer la croyance dans le mystère monarchique manifesté dans la majesté. Donc Mariana doit parvenir à incarner un pouvoir fort et incontestable, tout en exaltant la figure de l'enfant roi. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît une nouvelle grammaire iconographique de la majesté et de la représentation du pouvoir. Il s'agit de conférer une véritable stature politique à un enfant qui ne détient aucun pouvoir effectif et à lui faire incarner la continuité de la royauté. La proposition iconographique de Herrera Barnuevo a marqué l'art du portrait royal. Donc là, je synthétise et puis je présente conformément à ma problématique un discours qui n'est pas de moi, mais que je prends à mon compte. Donc, la proposition iconographique de Herrera Barnuevo a marqué l'art du portrait royal. Ces tableaux apparaissent comme autant de montages symboliques dont le corps du roi occupe le centre. Les objets marqueurs de la royauté et de la dynastie envahissent donc peu à peu l'espace iconographique. Et cette trame sera ensuite retravaillée par Carreño de Miranda, dont vous voyez un exemple donc à droite, qui confère lui un rôle privilégié à la représentation de l'espace du palais et le sature d'éléments symboliques redoublant la figuration du roi, en contraste avec la sobriété du portrait royal espagnol, jusque-là caractérisé par une économie de signes. Et je vous ai mis, point de comparaison à gauche, Philippe IV par Velázquez. Alors, le dénuement et la présence-absence du souverain, donc avant Charles II, en faisait une sorte d'icône dont la gravitas était propre à faire jaillir la majestas. Toutefois, en cherchant à combler par le langage iconographique le fossé entre la définition publique du souverain et son absence de pouvoir effectif, à force de symboles, le paraître pouvait devenir faux-semblant. En effet, la majesté qui se montre sans se démontrer se trouve prise dans une logique d'explicitation qui la transforme en rhétorique visuelle, où l'on exprime par des artefacts ce que l'apparition royale ne peut manifester d'elle-même. Il n'empêche, le roi enfant ne cesse pas d'être la référence ultime, hein, comme le montre par exemple la première sortie publique du Habsbourg en juillet 1668, où il est tout à fait acclamé. Par ailleurs, ce travail habile, quoique risqué, d'explicitation de la majesté, s'intègre dans une politique plus générale de figuration du pouvoir qui offre à la régente la possibilité de célébrer à la fois son pouvoir, donc le gouvernement, et le pouvoir du roi, donc qui règne et incarne la majesté. La période de régence voit l'apparition donc des portraits doubles, hein, qui ont été bien étudiés par exemple par Alvaro Pascual Chenel, qui met en scène... dans le même espace pictural, la reine et son fils, dans un mouvement de renforcement réciproque. C'est le corps monarchique bicéphale qui s'offre au regard, et dans tous les cas, hein, là je résume, si on pouvait embrasser d'un regard panoptique un petit peu toute cette production des portraits doubles, eh bien, on voit toujours que le roi est une incarnation de l'immortalité de la royauté dans son actualisation dynastique, et qu'il est toujours associé à la couronne et au régalia, tandis que sa mère est représentée dans la gestion quotidienne des affaires de l'État, et en intercesseur du roi vers le trône. Mais ces opérations d'explicitation de la majesté ouvrent une fenêtre de vulnérabilité. Le nouveau langage plastique construit autour du corps du roi, devenu insuffisant en soi à incarner le mystère de la monarchie, intègre symboles, allégories et figures de la dynastie, articulées selon les logiques de la parentèle. Or, le parti des mécontents utilise précisément le modèle de la famille pour le phagocyter et le reconstruire autour de Don Juan José. Dans les années 1670, à l'approche de la majorité de Charles II, la production juanista reprend le topic des liens biologiques. Alors que Mariana est une marâtre, Don Juan serait poussé à vouloir le meilleur pour son demi-frère, mu par les liens du sang qui les unissent. Le second prénom, hein, José, Joseph, offre d'ailleurs un tour rhétorique pour renforcer l'idée que Don Juan serait le père terrestre du Christ Charles, Philippe IV étant Dieu le Père. Et donc, de libelle en libelle, hein, là je parle de centaines de textes, une théorie de l'incarnation de la souveraineté émerge, selon laquelle le corps immortel de la royauté n'adviendra que si les deux corps physiques et mortels de Charles et de Don Juan se trouvent réunis à la tête de la monarchie. Là je glose, hein, mais ce sont bien les termes employés, Charles se nimbera de la majesté à la condition que son frère l'assiste. Et il y a un jeu avec Carlos Carsol, etc. Bon, voilà. Dans cette famille recomposée, hein, si je puis dire, Don Juan est le frère, mais aussi le père qui éduquera le niño criado sin padre et qui lui permettra de gouverner par lui-même. Et les partisans de Don Juan détournent les logiques des portraits doubles qui figuraient Mariana et le jeune roi dans une dynamique de légitimation réciproque. Alors, on pourrait faire une étude, hein, je n'aurai pas le temps de la faire, mais autour, par exemple, du topos de l'Atlas Hercule, pour montrer comment celui-ci est revisité pour opérer un dédoublement du corps du roi entre les deux Habsbourg, et comment, dans plusieurs images, le roi, justement, est intégré dans la sphère portée aux cieux. C'est ça qui est nouveau et qu'il faut souligner. Hein, et qu'il se trouve donc pris dans un assemblage complexe dont il n'est qu'un élément pour représenter le pouvoir légitime, mais sans plus incarner le mystère des fondements, autrement dit la majesté. Parce que dans ce cas, la figuration du roi travaille à asseoir la position d'autre que lui-même. Là, je vous ai mis donc une description d'éphémère à Carignana. Justement, vous avez la description de deux éphémères, mais il y en a plusieurs. Et ce sont des jeux autour des corps de Charles II et de Don Juan. Et là, ce qui est remarquable, c'est que vous avez donc Don Juan en atlas, qui porte Charles II sur ses épaules, qui lui-même porte un globe. Il y a d'autres représentations, hein, donc une fois que Don Juan est nommé Premier ministre, et on peut voir que ce motif où justement on intègre les personnages dans la sphère, et c'est encore ça, j'insiste, la nouveauté, on la voit aussi sous la régence de Mariana en 68, où c'est là Mariana et Charles II qui sont dans le globe. Foyer donc d'obéissance, mystère de la monarchie, la majesté est aussi un lieu de pouvoir parce qu'elle est un lieu du discours plastique, scénographique ou typographique qui permet à certains individus ou collectifs de capitaliser donc l'assise politique qu'elle confère en la phagocytant. Prise dans la rhétorique contradictoire que manient les factions et les partis qui s'affrontent dans les phases curiales et au-delà, la majesté peut donc devenir le socle discursif qui autorise des remaniements parfois lourds de conséquences dans la distribution des pouvoirs sans heurter l'imaginaire et la culture politique. Donc je ne chercherai pas ici à montrer l'écart inévitable entre l'image que cherche à diffuser la monarchie et la réalité du simple corps du roi. Et d'ailleurs, tous les textes qui évoquent la majesté donnent bien le conseil aux souverains de se mettre à distance, de ne point trop se montrer. Si notre enquête porte bien sur la façon dont les imaginaires politiques travaillent au corps les sociétés, notre démarche ne tend pas à postuler de la croyance à partir du descriptif de dispositifs communicationnels, que ce soit un succès ou un échec. La majesté telle que je voudrais l'aborder ici est une réalité efficiente en tant que lieu du discours qui offre la possibilité à différents acteurs de s'approprier un imaginaire politique et de réarticuler les rapports de pouvoir, mettant en adéquation, mais en bout de chaîne seulement, une réalité politique et un discours sur la majesté, co-performant en quelque sorte le mystère des fondements de la monarchie. Donc je voudrais qu'on observe, dans le temps qui nous reste, deux figures de mise en tension de la majesté qui ont constitué des enjeux forts du processus de configuration des pouvoirs de la régence et de la sortie de minorité de Charles II, puisqu'il s'agit vraiment d'un processus de sortie de minorité. La lèse-majesté et le coup de majesté. Ces deux lieux du discours permettent le déploiement d'une violence extraordinaire mais ciblée, présentée comme cathartique et seule capable de ressouder le corps de la monarchie. Ce sont les armes d'une politique du scandale dont s'emparent les camps adverses, faisant passer les affects au premier plan, tout en donnant la possibilité d'éviter la guerre civile. Puis, dans un dernier temps, nous quitterons le monde de la cour pour nous placer à l'échelle des royaumes, pour voir comment les élites aragonaises et navarraises ont pu insérer l'image du roi en majesté au sein d'une mécanique complexe intégrant cérémonies, images, textes et dispositifs éditoriaux, afin de rendre compatible la promotion des identités rénicoles, c'est-à-dire recherche antiquaire, mise en avant des fueros, et la promotion de certains groupes ou individus dans une perspective donc d'intégration au sein de la monarchie polycentrique. Et c'est une façon aussi de revenir sur la thèse, évidemment maintenant obsolète, du néo-foralisme. Donc, premier élément, néfondum autour de la lèse-majesté. La querelle opposant Nithard à Donjon devient vite une affaire d'État portée par un mouvement de montée en généralité qui permet au bâtard royal d'agréger les mécontents les plus divers et d'indexer sa victoire au coup d'arrêt du système inédit de répartition des pouvoirs que Mariana met en place. Dans ce contexte, les Nithardistes introduisent la catégorie de lèse-majesté. Et là, je vous ai mis, donc il y a des dizaines de textes qui en traitent, mais je vous ai mis les titres assez éloquents de quelques libelles qui circulent à l'époque autour de cette question de la lèse-majesté. Donc plusieurs libelles cherchent à démontrer que Don Juan en est coupable autour de trois griefs. Des actes de désobéissance, d'insolence et une ambition dévorante qui porte atteinte à la dignité de la reine, car sans même évoquer la question des responsabilités, qui est pleinement évoquée, le fait d'insulter Nithard et de le livrer à la vindicte lèse la majesté du roi, car un ministre est un membre principal du corps du roi, conformément à la pensée organiciste et analogique de l'époque où le tout est dans les parties et inversement, et partant où la macule contamine le tout. Vouloir imposer la catégorie de lèse-majesté correspond à une logique d'action qui permettrait à Mariana de disposer d'un arsenal capable de neutraliser Don Juan par une réaction d'ampleur affranchie de la juridiction ordinaire et travaillant au renforcement des pouvoirs royaux. Cette logique d'action transparaît dans l'agenda précipité de parution des textes où il s'agit d'occuper l'espace polémique, de faire taire l'adversaire et d'encourager la reine à frapper sans être très regardant sur l'argumentaire. Et de fait, ces écrits partent du présupposé de la culpabilité de Don Juan pour plaquer une grille de lecture politique ou juridique dont le socle reste l'intentionnalité indémontrable d'un bâtard royal assimilé au grand monstre de la Bible et de l'histoire. Mais la catégorie de lèse-majesté est à double tranchant, car en signalant qu'in fine, le principe d'obéissance réside dans la considération qu'inspire le gouvernant selon une dynamique relationnelle, elle lève le voile sur le mystère des fondements et dit l'indicible qui met à nu la vulnérabilité d'un dispositif de croyance en réactualisation permanente. C'est pourquoi, au fil des mois, les Nithardistes font de l'apathie de la reine le principal obstacle. Et là, je vous ai mis quelques citations qui évoquent justement ce problème de la majesté. Constatant qu'ils perdent une guerre des mots qui ne se joue fondamentalement pas sur l'acuité des arguments, mais sur la capacité à intéresser un large public à soutenir l'un ou l'autre parti pour y retirer intérêt catégoriel et individuel, et ne souhaitant plus nourrir la polémique qui les met sur un pied d'égalité avec des adversaires jugés illégitimes, les Nithardistes se consacrent à persuader la reine de châtier Don Juan. Car la majesté ne se démontre pas, elle se montre et se manifeste en gloire, en embrasant les cœurs ou en frappant impitoyablement les corps de ses ennemis.
et le parti de la reine a été pris au piège dans la polémique. Il a tout à perdre à s'embourber dans de vaines arguties pseudo-juridiques, dans un espace qui n'est que le simulacre d'un lieu de la controverse, le miroir déformant d'un tribunal, où tous les registres discursifs se mêlent et se contaminent, au service d'une lutte agonale, où l'honneur est moteur pour signer la mort politique d'un adversaire discrédité. Alors que la catégorie de lèse-majesté est l'arme rhétorique permettant à Mariana de restaurer son autorité par un régime politique de l'extraordinaire, mais ce qu'elle dénonce et dévoile est un transfert d'autorité, donc du principe d'obéissance au profit du prince. Don Juan et ses partisans saisissent bien les enjeux qu'introduit la question de la lèse-majesté. Ils désamorcent la capacité de riposte de leurs adversaires en rendant indémontrables les velléités séditieuses et homicides du bâtard royal par le biais d'une rhétorique du sujet loyale et fidèle. Les juanistas taisent les conséquences dommageables pour la crédibilité de la reine des actions de leur champion et en même temps, Don Juan met en crise le système en divisant les institutions appelées à lui manifester leur soutien. Il capitalise ainsi la légitimité des conseils à statuer sur la chose publique qui incarne le corps politique et sont considérés comme les dépositaires d'une parcelle de la majesté. La paralysie qui en résulte, moquée ou déplorée dans les pamphlets, achève de discréditer la reine. Mais c'est là que se révèle tout le potentiel du thème du mauvais conseiller et de son emprise pour neutraliser la catégorie de lèse-majesté. Outre qu'il actionne la stratégie bien connue du fusible, qui permet d'échapper à l'accusation de déloyauté et de désobéissance ouverte, il permet de dédouaner la régente en ménageant une sortie acceptable pour les deux parties. En somme, les juanistas présentent l'accomplissement de leur propre volonté par la reine comme un coup de majesté de la reine, libérée de l'emprise de son valido. Mais après le renvoi contraint de Nithard, la reine ne choisit pas l'amour régénérateur du corps politique pour restaurer son autorité. Il y a quelques libelles juanistas magnifiques, notamment le songe de Bosch, où on voit Mariana qui, aux côtés de Don Juan qui décharge un fleuve d'amour sur le peuple espagnol qui devient vertueux, etc. C'est magnifique. Elle impose plutôt le régiment de la Chamberga dans la capitale, une arme redoutable visant à s'assurer le soutien d'une partie de la noblesse, et éloigne Don Juan, le nommant vicaire général d'Aragon. Cette fois, la reine tient bon contre les accusations de désamour, voire de tyrannie lancées par ses adversaires. Sa fermeté pousse Don Juan dans ses derniers retranchements et le place en situation d'obtempérer ou de passer à la désobéissance ouverte. Et le prince ne franchit pas le Rubicon. On le voit, les notions donc de lèse-majesté, de tyrannie, de coup de majesté entretiennent des liens dynamiques. Mises en tension, elles opèrent à nouveau pour dénouer la crise de l'avènement de Charles II, dont le passage à l'âge de la majorité change les coordonnées politiques. Le Habsbourg devient l'arbitre suprême et l'éloignement de Mariana devient envisageable sans contrevenir au testament. Pour assurer son avenir politique, la reine avait misé sur la progressive concentration des pouvoirs entre les mains d'une créature qui lui devait tout, Valenzuela, à qui elle tente d'obtenir la royale amitié. À partir de la combinaison roi, conseiller privilégié et organisme assesseur collégial, à l'articulation mobile, la configuration du gouvernement allait dépendre de l'impulsion donnée par le jeune roi. Le triomphe de la faction de Don Juan, qui devient Premier ministre au terme d'une guerre de plumes sans merci et d'une marche militaire incarnant l'étendue de ses soutiens et le corps politique réarticulé autour de sa personne, eh bien, ce triomphe est présenté comme un coup de majesté inaugural par Charles II. C'est encore une fois cette catégorie, coup de majesté, donc majesté, dont le flou définitionnel est soigneusement entretenu, qui donne de l'agilité au jeu politique en autorisant toutes les configurations politiques sans déchirure effective du corps monarchique et derrière l'apparente continuité d'une volonté royale agissante et bienfaitrice. Alors là, je vous ai mis justement des titres qui sont éloquents, il y en a beaucoup plus, mais vous voyez bien que c'est toujours la majesté de Charles qui prend une décision, etc. Donc, des libelles, des serments, des récits de fêtes présentent la décision de Charles de se séparer de sa mère et de convier son demi-frère à la cour comme un geste d'autolibération manifestant la majesté retrouvée du roi qui inaugurerait son règne par cet acte héroïque. Les titres des écrits qui circulent alors par centaines condensent cette idée. Le sujet est toujours la majesté de Charles qui prend ainsi une détermination royale. Les écrits suivent toujours un même canevas. La venue de Don Juan à la cour en 1677 apparaît comme un coup de majesté, le souverain appelant son frère au pouvoir pour devenir enfin roi. Et pour ne pas contredire ses fondements, le processus suppose de désengager la responsabilité du roi depuis qu'il a atteint sa majorité officielle par divers artifices rhétoriques, volonté tyrannisée, aliénée, entravée par un corps d'enfant, par une réclusion ou voire un ensorcellement. Alors il faudrait retracer ici la genèse discursive du coup du roi, aboutissant à l'antienne de l'inspiration divine et de la manifestation de la gloire de l'enfant devenu roi, et montrer comment, quelques jours avant l'arrivée de Don Juan à Madrid, au terme de sa marche militaire, l'entourage du roi finit par le convaincre de publiciser par un décret, hein, que vous voyez derrière moi, le fait qu'il est maître des décisions et des événements et qu'il confirme la venue de son frère et la séparation d'avec sa mère. Je n'ai pas le temps de le faire ici. En tout cas, ce qui importe, c'est de dire que les apparences sont sauves et l'artefact du coup de majesté permet de donner de l'agilité au jeu politique en faisant l'économie de la violence physique. Dès lors, Don Juan s'emploie à manifester la majesté retrouvée du roi, car c'est d'elle qu'il tire aussi sa force et sa longévité politique. Il fallait oblitérer les images noires surgies durant la régence et diffusées par certains libelles, celles du roi enfant, celles du roi prisonnier, celles du roi tyrannisé, au profit de celles du roi émancipé, du roi libéré et du roi en majesté. Fièrement épaulé dans ses décisions. Et Don Juan prouvait ainsi qu'il était bien l'agent opérateur du miracle de la transsubstantiation du corps politico-mystique de la monarchie, comme le clamaient des centaines d'écrits. Les opérations de mise en majesté de Charles II, qui tournent parfois à la mise en pli de Charles II, puisque Charles II était mal peigné, et donc Don Juan, qui soigne son apparence physique, l'engageait à se faire coiffer, et cela, Charles II aurait dit, même les poux doivent se tenir à carreau avec Don Juan. Donc en tout cas, réagencement du cérémonial, on ne peut plus priser devant le roi, ne priser le tabac devant le roi, etc. Soit un portrait à l'apparence du roi, appropriation des marqueurs du pouvoir souverain, comme l'écriture, hein, Don Juan l'entraîne à écrire tous les jours pour qu'il puisse répondre de sa main à certains souverains, etc. Donc la mise en majesté irradiante du roi profite à Don Juan, mais aussi aux grands qui apparaissent faisant corps autour de Charles II lors des célébrations politiques et religieuses. Le cérémonial et la mise en scène du corps du roi en ce qu'il incarne et réverbère la majesté est un dispositif complexe qui reflète et valide une certaine mise en ordre politique du monde, mais qui offre aussi à des groupes et des individus des leviers d'action pour reconfigurer ou du moins infléchir cette mise en ordre. Loin d'être un dysfonctionnement, ces opérations multiples scandent avec plus ou moins de visibilité la vie politique. La cour madrilène n'en est pas l'unique théâtre, parce que d'innombrables centres et relais de pouvoir articulent une monarchie planétaire, aussi parce que le roi peut être présent à travers ses alter-égos et ses simulacres que sont les portraits, enfin parce que la majesté est aussi cette qualité exceptionnelle qu'on impute au roi pour donner de la cohérence à l'agglomération des territoires. Deux cas nous inviteront pour finir à voir opérer la majesté à distance du corps réel du roi, mais au sein de lieux spécifiques qui activent son pouvoir, car l'image ne saurait être pensée indépendamment du lieu qui la reçoit ou du lieu qu'elle met en scène. La scène du palais de la Députation en Aragon et la cathédrale de Pamplonne en Navarre, et leur relais dans l'espace du livre politique et juridique. Le 6 novembre 1679, jour anniversaire du roi, le portrait de Charles II est installé dans la salle Saint-Georges de la Députation. Les Aragonais signifient ainsi, je cite, « la vive et ardente affection qui livre leur cœur à l'extrême révérence et vénération de votre majesté hein, », comme on peut le lire dans l'ouvrage dédié au souverain pour fêter l'occasion. Cet ouvrage présente les inscriptions figurant sous les portraits de tous les rois d'Aragon depuis les origines mythiques de Sobrarbe, selon une parfaite continuité. Ces inscriptions, écrites par Jerónimo Lancas à la fin du XVIe siècle, ont fait l'objet au XVIIe siècle d'une traduction en castillan et ont été assorties de notices relatant les éléments notables de leur règne respectif. Le chroniqueur du royaume, Dormer, a la tâche de republier, d'actualiser et de présenter tableaux et inscriptions. Il s'empare des possibilités offertes par l'espace du livre pour insérer divers textes liminaires où il célèbre le lieu de pouvoir qu'est la députation et faire surgir devant le lecteur la galerie des portraits du roi où prend place le portrait de Charles, descendant d'une lignée héroïque depuis Sobrarbe, ce dernier devant en assumer l'héritage. Comme le dit Dormer, l'inscription sous son portrait est encore vierge. La glose qui sera tirée devra se fondre dans la geste que tissent les notices de ses ancêtres. Les passages consacrés aux Habsbourg livrent d'ailleurs l'histoire ininterrompue des échanges d'amour entre le roi et ses sujets qui manifestent leur fidélité par des services appelant gratification. Le chroniqueur inscrit le portrait de Charles et la galerie des rois d'Aragon dans une histoire de dons et de contre-dons, rappelant par exemple que Philippe II s'en était extasié au point de se voir offrir par le royaume un ouvrage publiant les inscriptions. Fort de ses précédents renvoyant à la majesté bienfaitrice et intégratrice des Habsbourg, Dormer lie le don du portrait royal et du livre à l'obtention implicite de la caution des origines de Sobrarbe et de ses forts, dans une lutte acharnée contre la Navarre qui lui dispute le statut de berceau de la monarchie. Cela nous amène, pour finir, à l'analyse d'un autre dispositif d'inflexion des pouvoirs autour de la figuration de la majesté du roi, la gravure que vous voyez derrière moi, qui orne la compilation des forts de Navarre, réalisée par Xavier en 1686, à la demande des Cortés de 77-78. Sur celle-ci, on voit Charles paré des régalias, sur un bouclier aux armes de la Navarre porté par 12 personnages, les ricos hombres du royaume. Au fond se détache l'autel de la cathédrale portant la Virgine Sagrario, au-dessus duquel se déploie un phylactère portant la triple mention « Real » prononcée lors de la levée du roi. Les états de la Navarre en Cortés assistent à la scène, délimitant le cadre de l'espace politique dont le roi occupe la place centrale et dont le point de fuite est l'espace religieux représenté par la Vierge. Une correspondance est établie donc entre trône céleste et terrestre. Les enjeux qui gravitent autour de cette image d'un roi en majesté et présentifié là où il ne s'est jamais rendu, car c'est le vice-roi en fait qui a prêté serment, supposent de l'inscrire dans une histoire globale de la monarchie. La visualisation de Charles II paré des régalias travaille à l'affirmation de la dignité et de l'antiquité d'un royaume à part entière, dont les élites revendiquent une place éminente au sein de la monarchie catholique, au détriment de l'Aragon, à qui ils disputent certains lieux historiographiques. On a vu que la remarque valait pour le portrait de Charles à Saragosse. Le changement d'échelle, et je termine, et le jeu comparatiste rendent plus saillant encore le rôle dévolu à la figuration de la majesté dans la dynamique d'ensemble. Dans les deux cas, les trajectoires des auteurs et des commanditaires témoignent d'une étroite implication avec les ministres et les agents et représentants du roi, au point de conditionner leur carrière. Par ailleurs, ces images et écrits appartiennent à une dynamique antidorale qui interpelle le Habsbourg en parlant le langage de l'amour et qui reçoivent à minima la caution royale, voire plus. Par ce dispositif iconographique et scripturaire, les Aragonais font acte de dévotion à la majesté du roi protecteur et juste, érigé en réceptacle de l'amour de sujets éternellement fidèles. Par des ressorts analogues, les Navarrais célèbrent en même temps que leurs forts et leurs origines un roi inspiré par Dieu, érigeant la catholicité en ciment des royaumes. Ces deux postures, traduites dans le langage du cœur, de la foi et un discours organiciste, rendent compatibles la recherche antiquaire, la revendication des identités régnées et l'intégration dans une monarchie polycentrique où le pouvoir est diffus. Les sujets entretiennent des liens avec leur roi selon diverses échelles et canaux plus ou moins directs institutionnalisés pour en retirer grâce officiers, offices et privilèges. Car il s'agit bien de se disputer une place éminente justifiant des relations privilégiées avec le souverain, intégrant la dignité régnicole et la longévité des échanges dans la pesée d'une réciprocité asymétrique. La figuration du corps du roi orchestre donc chez certains collectifs une politique de l'apparition qui est une politique de l'appropriation. La majesté, en tant qu'elle est implicitement présentée comme une vertu intégratrice, est le lieu du discours qui dit la vigueur du lien ou qui travaille à le faire advenir dans un cadre préalablement esquissé. Et je m'arrête.